Une des thèses chiites, donc, c'est d'affirmer que justement ce Coran serait amputé des deux tiers de sa version actuelle, avec énormément de références à Ali, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que d'une manière générale, il est presque avéré maintenant, quand on regarde les textes musulmans en général, pas seulement les textes chiites, on se rend compte que pendant les 3 ou 4 premiers siècles de l'islam, plusieurs Corans circulaient sur les terres d'islam. C'est-à-dire que le Coran que l'on connaît peut être appelé en fait le Coran califal, c'est-à-dire le Coran impérial, la version officielle de l'Empire, qui aurait été élaboré, parce qu'on étudie la question depuis un siècle et demi, mais disons maintenant la thèse qui prend de plus en plus de consistance, c'est que le Coran que l'on connaît, le Coran officiel, a été élaboré sous le règne d'Abdelmalek, c'est-à-dire le 5e calife Omeyyade, à la fin du 1er siècle de l'Égypte. Mais ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tous les musulmans ont accepté cette version-là. Mais d'autres musulmans, et bien sûr les ennemis des Omeyyades, n'ont pas accepté cette version qu'ils considéraient comme la version Omeyyade. Et donc, plusieurs Corans, qui étaient différents dans leur forme et leur contenu, circulaient, selon des sources aussi bien sunnites que chiites, et que finalement, c'est dans la première moitié du 4e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire 10e siècle, que, à cause aussi, je dirais, de la pression et de la répression du pouvoir califal, que tous les musulmans vont accepter le Coran que l'on connaît, de manière unanime. Mais ça prend 3 siècles et demi. C'est à partir de ce moment-là que le Coran devient véritablement, on peut dire, le livre saint de tous les musulmans. Mais, pour autant, parmi les Corans qui circulaient jusqu'à cette date, il y avait une vulgate, enfin une recension coranique, un codex, qui était celui de Ali. Et donc, qui est considéré par les chiites, c'est-à-dire les partisans de Ali, la seule version authentique du Coran. Et parmi les gens qui mettaient en doute, qui mettaient en question l'authenticité du Coran officiel, c'est-à-dire du Coran califal, les critiques les plus nombreuses et les plus cohérentes, on les trouve dans les sources chiites, qui disaient que la version officielle était une version falsifiée, était une version censurée, et que le vrai Coran, qui était celui de Ali, était 3 fois plus volumineux que le Coran que l'on connaît. Donc, selon les chiites, qui professaient de cette manière-là la thèse de la falsification, le mot arabe est tahrif, le Coran officiel a été amputé de 2/3. Pourquoi ? Parce que, selon encore cette thèse chiite, le Coran originel contenait énormément de récits sur la vie du prophète, sur ses contemporains, sur sa famille, sur ses amis, sur ses disciples, sur ses ennemis. Or, selon cette thèse, c'était justement ses ennemis qui avaient pris le pouvoir après la mort du prophète. D'après cette thèse de complot ou de coup d'État, n'est-ce pas, chiite, qui avait écarté donc Ali du pouvoir. Et donc, une des premières choses qu'avaient fait ses ennemis maintenant au pouvoir pour rétablir le texte du Coran, c'était d'enlever leur propre nom. Et du coup, ils avaient également enlevé les noms des disciples d'Ali, de son successeur, c'est-à-dire Ali, qui, selon cette thèse chiite, était nommément désigné dans le Coran comme le successeur du prophète, et également les descendants de Ali et de Fatima, c'est-à-dire les descendants du prophète, étaient nommément désignés dans le Coran. Donc, ses ennemis avaient enlevé tout ce qui concernait, en quelque sorte, le récit de la vie du prophète, ce qui a donné au Coran, d'abord le fait que, effectivement, le Coran, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et ça a frappé les orientalistes, pourquoi, contrairement à ses ancêtres textuels, le Coran ne contient absolument aucune donnée sur la vie du prophète et sur ses contemporains. Si vous regardez les livres de l'Ancien Testament ou les évangiles, quand on parle d'un prophète, n'est-ce pas, ou d'un homme de Dieu, d'un saint, on parle de son histoire, de sa famille, ce qui est très important, de ses amis, de ses disciples, sa généalogie, ses ennemis, etc. Il n'en est rien dans le Coran. Abraham ou Moïse sont cités 10 et des centaines de fois, et Mohammed lui-même 4 ou 5 fois, et puis aucun contemporain important, aucun membre de sa famille, aucun de ses compagnons. Et donc, effectivement, pour les chiites, ces noms-là existaient dans le Coran, mais simplement comme ces passages-là étaient compromettants pour ceux qui avaient maintenant le pouvoir a enlevé ces noms-là. Donc, non seulement ça a amputé le Coran de ces noms-là, mais également ça a donné au Coran cet aspect un peu décousu, fragmentaire que l'on connaît, où il n'y a pas vraiment une logique narrative, on passe d'une chose à l'autre. En fait, le Coran officiel a introduit un désordre absolu dans le Coran qui rend le Coran inintelligible très souvent. D'où aussi le fait que c'est peut-être l'origine de cette notion que le chiisme chérit beaucoup, le fait que le Coran est appelé le Coran silencieux ou le Coran muet.
Et alors, est-ce qu'il existe une version qui aurait subsisté justement de ce Coran chiite ou des traces, plus ou moins ?
Alors, selon les croyances chiites, oui. C'est-à-dire que le Coran, le vrai Coran, le seul, celui de Ali, après ce coup d'État qui écarte Ali du pouvoir et qui réprime sa famille et ses amis, et puis la violence contre les partisans de Ali, Ali cache ce Coran-là et le transmet clandestinement à ses descendants, c'est-à-dire les imams. Et puis donc c'est ce Coran intégral, ce Coran originel, a été transmis d'imam à imam jusqu'au dernier, qui l'emporte avec lui dans son occultation et qui va le révéler à la fin des temps. Bon, ça, ce sont les données doctrinales chiites. Pour l'historien, la chose se passe autrement, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas des preuves matérielles de ce Coran-là, il n'y a pas de manuscrit de ce Coran originel, mais je dirais qu'il n'y a pas de manuscrit non plus ancien du Coran officiel. Les plus anciens manuscrits de la version intégrale du Coran sont d'époque abbasside, donc assez tardif, du 3e siècle. Les manuscrits plus anciens ne sont pas complets. Mais pour revenir au Coran de Ali, nous n'avons pas de manuscrits, mais nous avons des citations, plusieurs centaines de citations censées provenir du Coran de Ali. Avec mon ami et collègue Ethan Kohlberg, nous avons édité de manière critique le texte arabe, je dirais, du plus ancien écrit sur cette question de la falsification. C'est un texte qui date du 3e siècle de l'Égypte, c'est-à-dire 9e siècle, et qui est une sorte de monographie sur cette question de la falsification du Coran. Et on trouve dans ce texte, qui est un texte chiite, plus de 200 citations coraniques, entre guillemets, que l'on ne trouve pas dans le Coran officiel, et qui sont censées provenir du Coran de Ali.
Et est-ce qu'à travers justement les figures des imams, donc les 12 imams, plus tous les philosophes finalement chiites, ou soufi, parce qu'on verra qu'il y a des liens entre le soufisme et le chiisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des traces comme ça, de façon orale, qui sont véhiculées dans la science, finalement dans la...
Vous voulez dire des citations orales de ce
non,
Coran?
Non, pas des citations orales, mais en tout cas, l'essence peut-être de ce qu'aurait pu constituer aussi, enfin, en dehors évidemment des références à la famille de Mohamed, etc. Mais...
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, d'une manière générale...
Le sens ésotérique, je veux dire.
Oui, voilà. Il y a deux choses. C'est que, si vous voulez, comme... Les imams sont définis comme étant les messagers de l'ésotérique du Coran, c'est-à-dire de son esprit, c'est-à-dire de son sens caché. Cette dimension ésotérique et cette dimension exégétique sont extrêmement présentes dès le début dans les textes chiites. Et étant donné la figure théophanique, je dirais, la figure presque christique de l'imam, le chiisme peut être défini comme la religion de la mystique de l'imam. Donc c'est une religion qui se présente dans ses textes fondamentaux comme une religion mystique. Et donc c'est normal qu'il y ait eu des convergences, n'est-ce pas, des proximités entre le chiisme et la mystique sunnite qu'on appelle le soufisme. Donc il y a eu assez tôt des convergences. Ce n'est pas par hasard que pratiquement tous les grands ordres, les grandes confréries soufis sunnites font remonter leur chaîne de maîtres jusqu'à un imam chiite. Donc effectivement, c'est-à-dire qu'il y a cette convergence, il y a cette proximité, mais les choses deviennent encore plus claires après justement la proclamation du chiisme comme religion d'État en Iran, c'est-à-dire bon, ce sont des temps beaucoup plus récents, mais qui sont fondés sur toute une histoire. La proclamation du chiisme comme religion d'État en Iran au XVIe siècle fait que les chiites pour la première fois se sentent libres dans un grand État. Et donc là, si vous voulez, ça aboutit d'une part à la création du clergé chiite, c'est-à-dire un chiisme, je dirais, exotérique, clérical et juridiste, mais aussi cette liberté de la religion chiite a permis la naissance des ordres soufis chiites, qui n'existaient pas jusque-là. Et donc chez eux, on retrouve énormément de proximité entre ces soufis chiites avec le soufisme sunnite.
Ça, c'est une réflexion personnelle, mais la proximité justement de l'ange, parce qu'on parle de Ali en miroir avec le Christ, on sait que pour les sunnites, notamment Mohamed, a reçu la révélation de Dieu, mais enfin c'est l'ange, c'est l'archange Gabriel. Mm-hmm. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas, et on retrouve ça dans la philosophie chiite, cette intermédiation finalement de l'ange, est-ce qu'elle ne fait pas partie finalement de la pratique spirituelle, tout simplement?
Pas tellement, je ne pense pas. C'est-à-dire que cette figure de l'ange...
Comme Jésus aurait eu le Christ, finalement, vous voyez, l'esprit, voilà.
Oui, oui, et comme il y a une figure angélique de Jésus dans le christianisme ancien. Mais avec le temps, c'est-à-dire quand vous regardez aussi bien les textes chiites que les textes soufis, finalement, l'angélologie n'est pas aussi présente que cela. Moi, je dirais, avec tout le respect que je dois à Corbin, l'angélologie est beaucoup plus une préoccupation de Corbin que des mystiques musulmans. Bon, la figure de l'ange est importante, bien sûr, surtout l'ange Gabriel qui est l'ange de la révélation. Mais la figure de l'intermédiaire, c'est autre chose. D'abord, dans le chiisme, c'est l'imam. L'imam est infiniment plus important que l'ange.
Le guide, donc.
Le guide, oui, le guide. Et le prolongement du guide, même après l'occultation des imams, c'est-à-dire le maître spirituel. Et c'est également le cas dans les confréries soufis sunnites, où l'intermédiaire, c'est le maître de l'ordre. Beaucoup plus que l'ange. Alors, le maître ou le guide sont en relation avec le ciel et donc avec les anges. Ils reçoivent, n'est-ce pas, la visite de l'ange, ils peuvent voir ou entendre la voix de l'ange, mais l'ange en tant que tel occupe une place beaucoup plus secondaire que le guide.
Oui, donc on parle de double nature donc, de ces imams. Vous les appeliez également les walis, donc c'est les amis de Dieu, hein, mm-hmm. C'est ça. Mm-hmm. Terme qui servait également à désigner, bah, oui, Jésus, vous en aviez parlé tout à l'heure. Si vous voulez bien, on va revenir sur le Coran, ouais. Mm-hmm. Puisque tout à l'heure, on parlait donc, de la théorie chiite qui était de dire qu'il y a eu comme un complot, entre guillemets, au début de l'islam, et vous disiez à juste titre que le Coran n'a été mis par écrit qu'aux alentours, enfin 100 années, c'est ça, après la mort du prophète.
Un peu moins, oui.
Donc finalement, on pourrait dire que c'est un peu la même chose qui s'est passée dans le christianisme avec le Nouveau Testament.
Oui, bon, les tenants et les aboutissants, et puis le contexte historique n'est pas exactement identique. Mais oui, c'est-à-dire que bon, la mise par écrit du Coran officiel, ça arrive plus tôt que dans le christianisme. Puisque si on accepte l'hypothèse Abdelmalek, nous sommes dans les années Abdelmalek a régné de 65 à 85 de l'Égypte. Donc ça fait, disons, une cinquantaine d'années après la mort du prophète. Donc c'est une époque extrêmement ancienne, mais entre-temps, c'est-à-dire entre la mort du prophète et le règne d'Abdelmalek et la mise par écrit probable de ce Coran officiel, il s'est passé des choses extrêmement importantes. D'abord, les guerres civiles entre les musulmans, qui ne cessent. Et ensuite, un événement qui a changé la face du monde, ce sont les conquêtes arabes qui sont arrivées très tôt et très rapidement et la constitution d'un empire. J'ai parlé de 50 ans, mais en 50 ans, on change de planète. L'époque de Abdelmalek n'a rien à voir et le contexte historique. Et à cause des conquêtes, ce qu'on peut appeler l'islam, qui n'est peut-être pas encore né en quelque sorte, mais les conquêtes islamiques ont complètement changé le contexte qui était celui du prophète Mohammed, qui était un contexte tribal, limité en Arabie occidentale, etc. Alors que 50 ans plus tard, les deux plus grands empires de l'époque, c'est-à-dire l'empire byzantin et l'empire sassanide, sont tombés. Les Arabes se trouvent à la tête d'un empire absolument gigantesque, dont ils ne savent pas quoi faire exactement. Et donc c'est justement Abdelmalek qui essaye de gérer ça. En quelque sorte, c'est lui le fondateur, entre guillemets, de l'islam en tant que religion de l'Empire, en tant que religion impériale, religion institutionnelle. C'est lui qui dote, si vous voulez, l'Empire de ses grandes lois, y compris des lois religieuses, des taxes religieuses, qui arabisent la langue de l'administration, qui met sur pied, en quelque sorte, le Coran. Et donc, ça arrive très tôt, mais en même temps, dans un contexte complètement différent. Et en même temps, il faut savoir qu'Abdelmalek était un ennemi acharné des Alides. Oui. Donc, parallèlement, nous avons les guerres civiles et puis les guerres de conquête et la mise en place d'un pouvoir, d'un État fort.
Alors justement, là où je veux en venir, on sait qu'une des critiques du Coran envers les autres textes révélés, notamment le Nouveau Testament, c'est de dire qu'il a été falsifié, etc. Donc, est-ce qu'on peut dire que le Coran est vraiment un texte révélé ou pas?
C'est-à-dire, pour un historien, il n'y a pas de texte révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le texte révélé est une notion religieuse. C'est-à-dire, un croyant peut parler d'un texte révélé, descendu du ciel ou révélé par Dieu. Pour un historien, les choses ne se présentent pas de cette manière-là. Pour un historien, tous les textes, même les plus sacrés, sont nés dans l'histoire. Ils ont une histoire et ils ont une géographie. C'est très important. C'est ça, si vous voulez, l'approche critique, historique et philologique. Et donc, effectivement, comme pour des raisons polémiques, pour des raisons historiques, le Coran accuse aux textes anciens, aux textes des religions antérieures, les accuse de falsification. Enfin, il dit que les juifs et les chrétiens ont falsifié leurs livres, mais nous sommes dans un contexte apologétique, c'est-à-dire que le Coran veut se présenter comme le seul livre authentique révélé. Et comme les écritures du passé sont falsifiées, pour avoir la véritable parole de Dieu, les adeptes de ces religions n'ont qu'à se tourner vers le Coran pour trouver la véritable révélation. Mais pour les chiites se fondent justement sur ces données coraniques qui reprochent aux juifs et aux chrétiens d'avoir falsifié leurs livres. Mais il y a un hadith prophétique extrêmement célèbre où le prophète aurait dit que ce qui est arrivé aux juifs, aux chrétiens, arrivera aux musulmans. Et donc les chiites utilisent cette tradition pour dire le prophète a dit que ce qui est arrivé aux juifs et aux chrétiens arrivera aux musulmans, y compris la falsification de leur texte.
Oui, en fait, ce n'était pas tant le fait que ce soit un texte révélé, mais incréé. Ouais, c'est ça.
Incréé. Non, ça c'est une thèse beaucoup plus tardive, c'est-à-dire c'est vers la fin du 3e siècle, justement parce que, avec la, je dirais, l'élaboration de ce qu'on appelle l'orthodoxie et l'orthopraxie musulmane, qui est assez tardive, c'est-à-dire le sunnisme. Bon, vous savez, en islam comme dans d'autres religions, l'orthodoxie est plus tardive que ce qu'on appellera plus tard l'hétérodoxie ou l'hérésie. C'est-à-dire que dans beaucoup de religions, l'orthodoxie est une sorte de réaction tardive à l'égard des courants qui seront taxés d'hétérodoxie. C'est pourquoi dans l'islam c'est la même chose, l'orthodoxie sunnite est beaucoup plus tardive que, par exemple, les différents courants chiites ou non chiites qui existaient jusque-là. Alors c'est avec l'établissement de l'orthodoxie qu'on va faire du Coran la colonne vertébrale de l'islam, et donc il va y avoir des discussions sur sa nature. Mais ça, c'est assez tardif. C'est-à-dire, est-ce que c'est un texte créé, c'est un texte incréé, dans quelle mesure il représente la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu fait partie de l'essence de Dieu ou non? Et donc, finalement, l'orthodoxie, le courant, disons, majoritaire au sein de l'orthodoxie sunnite, va dire que le Coran est incréé, le Coran est éternel. Mais, pour d'autres, non, ce n'était pas le cas. Et donc cette question du Coran créé et incréé, d'abord, c'est une thèse assez tardive, et puis il n'a pas été accepté par tout le monde.
Merci beaucoup Mohammad Ali Amir Modi pour toutes ces explications.
Merci à vous.
Et à très bientôt par écrit, je pense. Vous préparez peut-être des choses intéressantes à lire.
Oui. Je viens de donner le manuscrit d'un livre à mon éditeur. Il s'agit de la traduction commentée d'une partie, une vieille compilation de traditions chiites. Et puis, je prépare également une sorte de suite à mon dictionnaire du Coran, c'est-à-dire c'est une grosse synthèse sur les études scientifiques sur le Coran, avec des chercheurs, une équipe d'une quarantaine de personnes, donc venues de partout.
Okay. Bon, on suivra tout ça. Merci beaucoup.
Merci.